Bonjour mes amis, me voici toute seule à nouveau, mais pas pour très longtemps. C'est Clotilde Seille au micro de Canal M et vous écoutez l'émission Les Voix de Service. À la une de la presse ce matin, la coupe de 300 millions sera récurrente. On parle des transferts aux municipalités. C'est une exclusivité de la presse. La presse en Croatie, ils ont fait une marche de 51 jours. C'est une journaliste ou un journaliste, je vais vous dire ça quand je vais ouvrir ma page, qui raconte la longue route de l'exil de 5 jeunes demandeurs d'asile afghans rencontrés au tout nouveau camp de transit d'Opatovac, dans le sud de la Croatie. J'ai choisi délibérément de ne pas vous lire cette marche de 51 jours, non pas que ce n'est pas intéressant, mais hier, l'excellente Gisèle Lalande nous parlait d'articles qu'elle a trouvés, notamment dans le Los Angeles Times, je crois, où il était question d'une longue marche comme ça. On suivait plusieurs personnes, alors je me suis dit qu'on n'allait pas remettre ça aujourd'hui. Par contre, je vous recommande volontiers d'aller réentendre l'émission d'hier pour entendre vers les 10h40 à l'émission d'hier, Les Voix de Service. Madame Gisèle Lalande, donc, nous faire part de cette longue marche de certains de ces réfugiés, d'ailleurs de tous les réfugiés en ce moment qui sont baladés de la Croatie, retour à la Serbie, à la Grèce, enfin bon, c'est vraiment épouvantable. À la une de la presse également, François Cardinal, le code ne protège pas les cyclistes, dit-il. Sport, Éric Gay, de retour en novembre, le skieur Éric Gay, il est fébrile mais il est prudent, on sait qu'il s'est blessé aux deux genoux assez régulièrement. Un portrait, une photo de M. Éric Salvaille, M. Télévision, c'est une entrevue que nous propose Nathalie Petrovski. Et puis, il y a un gros plan sur le sigle Volkswagen, le titre de Volkswagen qui a dégringolé hier après que le numéro 1 mondial a admis avoir truqué des tests anti-pollution pour ses véhicules diesel aux États-Unis. Je vais vous lire ce que Stéphanie Grammont a à nous dire à ce sujet dans la presse. Juste avant, le petit clin d'œil de Stéphane Laporte. La campagne électorale est tellement longue que Justin Trudeau ressemble maintenant à Jean Chrétien. Quel bon titre pour Stéphanie Grammont ce matin dans sa chronique dans la presse affaires, Volkswagen Das Supercherie. C'est vraiment excellent. On croyait avoir tout vu en 2014, Anus Horribilis de l'automobile, eh bien non, dit-elle. Voilà maintenant que Volkswagen atteint de nouveaux sommets dans la supercherie. Accusé par l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, le constructeur allemand a admis avoir trompé les Américains au sujet des émissions polluantes de ses véhicules diesel. Et de quelle manière ? Un logiciel caché dans près d'un demi-million d'automobiles vendus aux États-Unis permettait de manipuler les résultats des tests. La Jetta, la Beetle, la Golf, la Passat et l'Audi A3 auraient ainsi été truquées à grande échelle grâce à un algorithme sophistiqué. En réalité, leurs émissions d'oxyde d'azote seraient jusqu'à 35 fois plus élevées que ce que les tests officiels permettaient de déceler. En matière de tromperie, il faut avouer que c'est fort, dit Madame Grammont. Volkswagen n'est pas le premier à se faire pincer pour de fausses allégations à propos de la performance écologique de ses véhicules. Par exemple, Ford a dû reconnaître que ses véhicules hybrides étaient moins efficaces que promis. Et puis de leur côté, Hyundai et Kia ont dû payer une amende de 300 millions de dollars US aux États-Unis l'an dernier pour avoir surestimé les économies de carburant de plusieurs de leurs véhicules comme l'Accent, l'Elantra, le Santa Fe et le Rio. Dans le cas de Volkswagen, bon, personne n'est mort. La conduite des véhicules ne pose pas de problème de sécurité, même si l'entreprise vient de suspendre la vente des modèles litigieux en Amérique du Nord. Mais le mal n'en est pas moins grand. En installant dans tous ses véhicules diesel ce logiciel conçu pour tricher, le constructeur allemand a sérieusement ébranlé la confiance de sa clientèle. Dire que Volkswagen avait fait de la protection de l'environnement une priorité stratégique. Par ses agissements malicieux, Volkswagen ne peut pas être plus loin du discours officiel qu'il tient. La vérité, selon l'ingénierie, qui est le slogan américain de sa marque haut de gamme, Audi paraît aujourd'hui diablement cynique, Pour Volkswagen, qui tentait d'augmenter ses parts de marché aux États-Unis en misant sur le diesel propre, la pente sera très dure à remonter. Le scandale risque même de nuire aux autres constructeurs allemands qui misaient aussi sur le diesel pour percer le marché américain, où il est beaucoup moins populaire qu'en Europe. Au pays de l'oncle Sam, le diesel est encore associé aux tracteurs de ferme. À tort, le moteur diesel consomme moins qu'un moteur à essence, ce qui réduit les gaz à effet de serre, mais il émet davantage de particules fines, quoique ces polluants soient mieux filtrés qu'avant, selon les constructeurs. Sauf que les consommateurs ont maintenant de bonnes raisons d'en douter. Réalisant qu'ils se sont fait rouler, les clients sensibles à l'environnement vont-ils continuer de payer la prime de près de 2 500 $ pour l'achat d'un moteur diesel? C'est pas sûr. Ce n'est pas facile d'être vert, lançait Kermit, la célèbre grenouille de Sesame Street, dans une publicité rigolote d'Audi, diffusée pendant le gala des Emmy la fin de semaine dernière. Ouf, Volkswagen ne pensait pas si bien dire. Vous vous souvenez de la publicité en ce moment, Volkswagen, Das Auto. Eh bien là, c'est Volkswagen, Das Supergerie. Dans la presse aujourd'hui, je vais aller en page 5 parce que c'est le gros titre de la presse et ça concerne une opération miracle. Je vous résume, c'est un petit garçon qui s'appelle Jolan Lemieux. Le petit est né prématurément et non seulement cela, mais il est né avec une tumeur au cerveau. Et ils ont réussi, bien qu'il soit vraiment tout petit, prématuré, il fallait lui enlever cette tumeur. Pourquoi ? Parce qu'il risquait de faire une hémorragie cérébrale. Alors, ils ont réussi à lui opérer, à lui enlever cette tumeur. Il a été opéré le 26 août dernier. Elle faisait quand même 6 cm de long. Sur un petit bébé comme ça, imaginez-vous, en plus prématuré, quand on dit petit, vraiment tout petit, c'est évidemment le genre de tumeur qui fait peur. Le défi est d'autant plus grand que l'opération devait se faire sur un bébé prématuré. Alors, les risques étaient encore plus grands. Et Monsieur Farmer, le docteur Farmer qui a opéré ce petit garçon-là, insistait sur le fait que ça démontre la pertinence et l'efficacité de ce qu'on appelle le CUSUM. Au cours des dernières semaines, il a dit, les nombreux ratés du nouvel hôpital installé sur le site de la gare Glen ont fait la manchette, mais on passe sous silence tous les exploits qui se font ici et tous les jours. Et ça, il faut le dire, affirme le docteur Farmer. Et puis également dans la presse ce matin, il y a Joël Denis Bellavance qui se demande si on ne se dirige pas vers un Parlement pizza. Il dit à moins de 4 semaines du jour du scrutin, la lutte demeure extrêmement serrée entre les conservateurs de Stephen Harper, les néo-démocrates de Thomas Mulcair et les libéraux de Justin Trudeau. À tel point qu'une firme de sondage, Nanos Research, accorde à chacun de ces trois partis environ 30% des intentions de vote. Et ça, c'est du jamais vu en politique. Qu'est-ce qu'il dit aussi qui me semblait fort intéressant ? Il reste encore 3 débats des chefs d'ici le 19 octobre, 2 en français, 1 bilingue. Le prochain débat en français, qui est organisé par la presse, Radio-Canada et Télé-Québec, aura lieu à Montréal jeudi. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et la leader du Parti vert, Elisabeth May, participeront à cette joute oratoire. Alors, quelle influence auront ces débats sur le reste de la campagne ? Jusqu'ici, Stephen Harper, Thomas Mulcair et Justin Trudeau ont été très prudents durant les 2 premiers débats, mais la dynamique La dynamique, oui, j'ai failli dire la dynamite. Quel lapsus formidable. J'aurais dit la dynamite plutôt que la dynamique. Sera différente cette semaine. D'abord, il s'agira du premier débat dans la langue de Molière. Ensuite, le chef bloquiste Gilles Duceppe, qui compte une longue expérience dans les joutes oratoires, il a participé à ses premiers débats en 97, va monter dans le ring. Et puis, les sujets abordés seront aussi très variés. On parlera d'économie, certes, mais aussi d'environnement, de gouvernance et d'institutions démocratiques, des services aux citoyens et de la place du Canada dans le monde. En tout cas, le fait que tout le monde soit à égalité, résultat, nous dit M. Bellavance, les électeurs pourraient bien se retrouver avec un Parlement pizza le 19 octobre, avec des formations politiques souverainement campées sur leur position et détenant une pointe égale de pouvoir aux communes, à moins bien sûr qu'un chef ne décide de s'élever au-dessus de la mêlée en mettant beaucoup d'eau dans son vin afin de ne pas plonger rapidement le pays dans une autre campagne électorale. Tiens, et puis parlons d'écologie et de campagne électorale. Est-ce qu'elle est verte, la campagne ? Une campagne électorale aussi longue, nous dit Madame Judith Lachapelle, avec tous ses autocars et ses avions, laissera inévitablement une empreinte plus tenace sur l'environnement. Personne ne s'étonne que les verts soient verts et qu'ils limitent les dégâts et déchets de campagne. Mais qu'en est-il des autres ? Eh bien, nous avons sondé les partis à ce sujet. Une petite note de Madame Lachapelle qui dit que tous les partis ont été sollicités à plusieurs reprises. Le Parti libéral a remis une réponse incomplète et le Parti conservateur du Canada n'a pas donné suite aux demandes. Alors, quel effet de quantité, de gaz à effet de serre les partis s'attendent-ils à devoir compenser en 2015 ? Autrement dit, combien en auront-ils provoqué ? Parti conservateur non précisé. Nouveau Parti démocratique, 1275 tonnes. Parti libéral, non précisé. Bloc québécois, 25 tonnes. Parti vert, 15 tonnes. Note, le NPD sillonne le pays d'un océan à l'autre en autocar et en avion. Et en avion produira donc beaucoup plus de CO2 que le Bloc québécois et le Parti vert. Combien ces engagements devraient-ils coûter au parti ? Parti conservateur, aucune réponse. Parti NPD, 30 000 $, Parti libéral aucune, Bloc québécois 800 $, Parti vert 350 $. À quoi servira cet argent ? Deux projets de carbone zéro ont été ciblés pour le NPD, soit un projet de reboisement sur des terrains vagues de la région de Montréal et un autre de compostage à Toronto. Pour le Parti libéral, trois projets sont favorisés, dont l'un de la réduction de la commande de diesel dans l'industrie du transport. Justement, nous en parlions avec le scandale Volkswagen. Et puis, Bloc québécois, le reboisement par carbone boréal de sections de la forêt québécoise qui ne se régénère pas. Pour le Parti vert, financement de divers projets canadiens et internationaux parrainés par Carbone Zéro, par exemple, un projet immobilier de l'Office municipal d'habitation de Montréal destiné à remplacer des systèmes de chauffage au gaz désuets et dans ses immeubles. Alors d'autres mesures économiques, écologiques, et bien pour le Parti vert, il n'y a pas d'autocar de campagne pour les écolos. Outre la voiture électrique, Prius de Madame May, le candidat de Vancouver Ouest, Ken Melamed, conduit une vieille Mercedes convertie à l'huile végétale. Et si Madame May prend le traversier plutôt qu'un taxi fluvial pour voyager entre les îles de sa circonscription, l'équipe s'est résolue à prendre l'avion en classe économique d'Air Canada, précisant plutôt que le train, comme elle l'avait fait en 2011. Pour traverser le pays. Bref, quand même, ils sont fidèles à leur image. Les Verts, cette année d'élection fédérale, comment ça, vous ne saviez pas, mes pauvres amis. Et on en a encore pour un mois. J'accueille une prochaine voie de service. Bonjour Gérard.
Bonjour Clotilde.
Gérard Cyr. Maintenant complètement détendu, ça y est, là c'est votre deuxième émission.
Oui, c'est ça.
Alors Gérard, vous êtes un passionné de patrimoine, d'histoire, d'archéologie, d'architecture. Art public par exemple. Alors, et là, il y avait beaucoup, oui. Beaucoup de sujets
ce
dans les journaux.
Et
ce matin en particulier. Alors c'est pour ça que exprès, je vous ai laissé toute la place pour que vous puissiez nous parler de tout ce qui s'écrit dans les journaux ce matin.
Ben, disons qu'on va commencer par revenir sur l'histoire du village des tanneries, hein. On en a parlé déjà, ça fait plus d'une semaine qu'on en parle.
Ben oui.
Et on en parle encore.
Oui, parce que samedi dernier, j'ai l'impression qu'on a fait quelque chose en douce, non? C'est pas ça qui est arrivé?
Ou en catimini, selon certains.
Oui, en catimini, ouais, c'est ça.
Un peu vite fait.
Oui.
Écoutez, c'est incroyable cette histoire-là parce qu'on a l'impression que les gens ne se parlent pas. Il y a des gens qui s'attendent à avoir un petit peu de délai pour prendre les bonnes décisions. Puis de l'autre côté, la MTQ en particulier, le ministère du Transport du Québec, en fait, ont décidé, eux, d'aller de l'avant. Mais ce que j'ai compris, c'est que je pense que l'importance pour eux, le ministère du Transport, c'était de récupérer les artefacts. Ça, ils l'ont fait, ça. C'est 150 caisses. Mais par contre, là où ça ne marche pas, c'est qu'ils ont complètement enseveli les vestiges. Et si on veut les murs, ce qui restait, là, tout ce qui était architectural, c'est enseveli. Il en reste encore un peu, là. Mais c'est ça qu'on voulait protéger aussi. C'est pas seulement les artefacts.
Mais
Parce
non,
que
c'est
les
ça.
artefacts, on va les retrouver, c'est sûr, au Musée de la civilisation à Québec, peut-être à la Pointe-à-Calière, peut-être au Musée d'histoire de Montréal. Bon, ça, c'est bien. Mais par contre, les gens s'en sont fait passer une vite quand même. Je pense qu'il y aurait C'était pas urgent, là, parce qu'on dit que les travaux n'étaient pas en retard
En plus.
dans ce coin-là. Donc, pourquoi ils ont décidé ça si rapidement? Poetti et Coderre, qui sont accusés de mal protéger le patrimoine dans le devoir aujourd'hui, on parle de ça. Ils ont dû se défendre d'avoir permis au bulldozer de raser les vestiges du village des tanneries sous l'échangeur Turcot samedi dernier. Le ministère des Transports n'a pas agi en catimini, a affirmé le ministre Poetti en réplique aux accusations des partis d'opposition à l'Hôtel de Ville. Mais bon, je pense qu'il y a une incompréhension vraiment majeure du dossier.
Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui, Poetti? Est-ce qu'on le dit dans l'article?
Oui,
Il
mais
dit que tout ça avait déjà été décidé,
c'est
non?
déjà décidé. Puis c'est les archéologues, en fait, qui travaillent pour le ministère qui ont le dernier mot, en fait. Quand les archéologues disent OK, c'est bon, on peut y aller, on y va. Mais les archéologues, si on leur posait la question en dehors du politique, là, en dehors de tout ça, si on leur demandait vraiment ce qu'ils en pensent, je ne suis pas certain qu'ils auraient été d'accord avec ça.
Mais non, mais
Et
non.
c'est ce que pense le maire du Sud-Ouest, Benoît Doré, c'est ce que pense Ferrandez, c'est ce que pensent tous les opposants, en fait, à cette démolition-là. Guy Giassion, de la Société historique de Saint-Henri, le maire de l'arrondissement, encore une fois. Au MTQ, la porte-parole Sarah Ben Sadoun s'est défendue d'avoir donné le feu vert au chantier en cachette, parce que c'est ce qui a été dit, hein, ça a été fait un peu en cachette. L'entrepreneur gère son emploi du temps, alors il a décidé d'y aller aujourd'hui. Ça, on parle de la semaine passée, là, c'était samedi, je crois. À cause de la météo qui était clémente, a-t-elle expliqué, avant d'admettre que les travaux ne cumulent aucun retard. Donc, il aurait pu quand même, hein?
C'est n'importe quoi.
Eh bien, pour rappeler aux gens, qu'est-ce que le village des Tanneries, c'est... En fait, c'est le premier village à l'extérieur des murs fortifiés de Ville-Marie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal. C'était Ville-Marie à l'époque. Il s'agit de vestiges de construction datant de la fin du 18e siècle. C'est donc les premiers pas de l'urbanisation de la ville, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important. On aurait dû, quand même. Il y a d'autres villes qui le font, hein. Longueuil le fait. Il y a Terrebonne qui le fait. Il y a plein de villes qui le font, qui respectent leur patrimoine. On le fait aussi à Montréal, mais pas toujours. Puis c'est pas... Non.
Le nombre de maisons qui ont été détruites, le nombre
Ben, juste
de
la maison
c'est
Redpath récemment. Regardez
exactement.
ce qu'on va faire avec la maison Alcan.
Exactement.
Bon, tout ça. Il y a Héritage Montréal qui est là pour bon, promouvoir et protéger, mais bon.
J'ai pas l'impression qu'ils sont très
Ben,
puissants face aux politiques, encore une fois, non? Je sais
ils
pas.
sont pas si puissants que ça. Non, mais ils ont quand même, ils font du lobbying, c'est sûr.
Bien sûr.
Ils vendent leur point de vue, mais bon. Donc, c'est ça.
Vous êtes arrivé aussi, je pense, avec d'autres sujets, mon ami Gérard.
Ouais.
Par exemple,
Ben,
vous avez.
il y a l'art public. Ce matin, on parle d'art hospitalier.
Ah, d'art public dans les hôpitaux. Oui, Et l'art public dans les hôpitaux, je sais qu'il y a un personnage qui est parti maintenant, qui a quitté le Québec, à qui on a reproché beaucoup de choses, c'est Christian Père. Mais Christian Père, il a beaucoup amené l'art public dans les hôpitaux, exposition, photographie, en tout cas tout ça. Mais là, vous nous parlez de quoi exactement?
Ben, ce matin dans la presse, Éric Clément parle, en fait son titre c'est « L'art hospitalier ».
Oui.
Intéressant. Il y a 10 œuvres d'art public qui seront intégrées à l'architecture de la phase 2 du nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, en 2016. Hélène David dit que c'est une cuvée remarquable. Les 13 créateurs, parce qu'il y a 13 créateurs, ont fait preuve d'audace et de créativité pour ce projet de 5 millions de dollars, quand même. Uh-huh. Et puis, c'est le projet d'intégration d'art public le plus important depuis 1961, depuis la création du bureau.
Donc, est-ce qu'on sait à quoi ça va ressembler?
Ben, il y a quelques photos, difficiles à décrire au micro comme ça.
Oui, mais quand même, allez, un petit effort, mon petit Gérard, un petit effort.
Mais c'est certain que ça va être contemporain,
ouais,
là.
C'est sûr.
Et on a fait appel à des artistes très contemporains.
Allez.
Dont Henri Venn, Jean-Philippe Roy, Nicolas Bayer, Yann Pocro, que je ne connais pas. Il faut dire que ça fait partie du fameux 1%. Hein, qui est consacré à la réalisation d'œuvres d'art précisément conçues pour ceci. La politique du gouvernement, qui date de 1961, c'est un plan, un programme d'intégration d'œuvres à l'architecture. Mais ça peut être l'architecture, ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être aussi un site public, par exemple un parc. Et donc, ce 1% du budget-là, c'est pas le 1% du total des coûts, hein, c'est seulement pour le coût de la construction. Donc, on oublie les architectes, les notaires, les avocats, tout ça, là. C'est vraiment le coût de construction. Donc, on prend 1% et on alloue ça à une œuvre d'art, la création d'une œuvre d'art. Et ça peut être aussi un aménagement, par exemple, d'un espace public.
D'accord.
Depuis 1961, d'ailleurs, depuis la naissance de la politique d'intégration des arts à l'architecture, il y a plus de 3500 œuvres qui ont été réalisées.
3500 œuvres.
Oui.
C'est quelque chose.
Et puis, quoi d'autre? Ah oui, à Québec aussi, il y a quelque chose qui va se passer bientôt.
Oui.
Le plus gros budget consacré à la réalisation d'une œuvre, 1,125 millions de dollars pour le parc Jean-Béliveau. Ça, c'est devant le nouveau centre Vidéotron de Québec, là. Ce projet devient ainsi par quelques milliers de dollars le plus gros en art public au Québec. Ça dépasse, en fait, parce que celui... je vais parler de BGL tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
Eux en ont fait un, ça a coûté 1,1 million. C'est très intéressant.
Oui, 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 l'affaire qui est... Oui, là, je vois bien où c'est. Là.
Pour Québec, là, les artistes ont jusqu'au 1er octobre pour soumettre leur projet.
Mm-hmm.
Ça devrait être intéressant, mais c'est une œuvre, c'est pas plusieurs. Là.
Non, c'est ça. Donc, installé devant le nouveau centre Vidéotron.
Oui, c'est ce qu'on appelle le parc Jean-Béliveau.
D'accord. Alors ça, c'est une œuvre, une sculpture qui a fait beaucoup jaser. On a dit, comment se fait-il qu'on investisse 1,1 million là-dedans alors qu'il y a des nids de poules partout, etc.
Ouais.
À Montréal. Il y en a d'autres en même temps qui disent, bah oui, mais il faut bien que ça bouffe aussi les artistes. Et c'est aussi très bien qu'on puisse demander à des artistes de créer des choses comme ça. Toujours est-il que, est-ce que c'est vraiment de cette œuvre-là dont vous allez nous parler?
Oui, oui, la vélocité des lieux. Donc, c'est une espèce de grosse roue là, qu'on voit au coin de Pinot et Henri Bourassa.
Mm-hmm.
Ça, c'est le collectif d'artistes de Québec qui s'appelle BGL. BGL pour Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière, qui ont commencé à se faire connaître dès leur sortie de l'Université Laval en 1996. Ils sont assez connus pour des installations qui prennent possession des lieux d'exposition et des espaces publics. Ils sont décrits comme étant provocants, critiques, explosifs. Ils ont recours à l'humour et à l'extravagance pour attirer l'attention sur des enjeux sociaux et politiques. L'œuvre « La vélocité des lieux », qui a été inaugurée samedi dernier d'ailleurs, découle d'un concours d'art public aussi, lié à un vaste plan de réaménagement urbain visant à rendre ce secteur de Montréal-Nord plus convivial. C'est un concours d'une rare ampleur au Québec par son budget, on l'a dit, 1,1 million de dollars. Son caractère national aussi, « coast to coast »,
Ah oui.
Sa sélection en plusieurs étapes, 5 demi-finalistes et puis 3 finalistes. Donc,
Autrement dit, quand tu es choisi, tu gagnes le gros lot, quoi.
ah ben oui, ouais,
C'est
parce que
à peu
c'est
près
coast to
ça.
coast, là, c'est des artistes de partout au Canada
Est-ce
qui.
qu'on peut la décrire un petit peu, hein? Ça ressemble à
Ça
une espèce
ressemble
de grande
à
roue.
une grande roue, mais c'est fait à partir de carcasses d'autobus.
OK.
Et puis, on a relié ces carcasses d'autobus-là par des espèces de. Si vous voulez, c'est comme des roues de vélo,
Oui, oui,
mais
oui.
surdimensionnées, là. Parce
Exactement.
que le truc fait 65 pieds de haut quand même.
Oui,
C'est
non,
assez impressionnant, là.
c'est assez impressionnant, oui,
Oui.
exactement. Mais ça ne peut pas rouler, parce que je pense que
Non.
ça aurait pu, hein, mais ça aurait coûté, j'ai
Ben
entendu
oui.
parler, 1 million de plus.
Ben voilà.
Alors finalement, ils ont décidé que ça resterait immobile, mais ça a bien failli être mobile.
Ouais. Et puis, ben, en fait, cette œuvre-là, La vélocité des lieux, ça s'offre en pendant à l'homme de Calder, qui est de l'autre côté, lui, qui est sur l'île Sainte-Hélène. Vous vous souvenez de l'homme de Calder,
Non, ça ressemble
qui est
à...
sur l'île
Excusez-moi.
Sainte-Hélène? Ça ressemble à quoi? C'est une sculpture métallique
OK.
qui ça ressemble un peu à un homme, là. Mais ça, c'est là depuis 1967, depuis l'expo.
OK.
Ça a été déplacé parce que c'était pas là, originalement.
Uh-huh.
Mais autrement dit, là, avec la Grande Roue, on a, à l'entrée nord de Montréal, autrement dit Henri Bourassa-Pinneuf,
Oui.
on a une énorme structure. On ne peut pas la manquer, là. Donc, c'est un peu, ça attire l'œil. Puis c'est ça qu'on veut, parce que en général, quand on parle de Montréal, c'est quand on vient par le sud que notre œil est attiré, par le
Oui,
centre-ville,
ben oui.
par le nord, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est sûr que ça va attirer l'œil, là.
Ah oui, ben ça c'est certain. D'autant plus qu'ils viennent de refaire ce carrefour-là pour le rendre un peu plus convivial et sympathique
Ouais.
et surtout un peu plus utile au niveau de la circulation. Et je l'ai pris hier
Exact.
et je peux vous dire que c'est nul. On s'est planté parce qu'il n'y a tellement pas d'indications qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on n'était pas dans la bonne file. Puis là, tu fais comme, ah oh, ben ouais. Ça vient d'être fait. Non, en tout cas, bref, je referme la parenthèse, mais je trouve ça assez cocasse quand même.
Moi, je viens de penser à un truc que Coderre a dit il y a quelques jours, une ville écœurante. Lui, il a promis une
Oui.
ville écœurante dans 3 ans.
Oui.
Au Québec, le mot écœuré, le verbe écœurer,
Oui.
ça a deux significations, hein.
Hum,
Il y a celle-là. Coderre et Labeaume l'emploient souvent. Mais par contre, je pense que les citadins, eux autres, sont plutôt écœurés dans l'autre
Ouais,
sens, hein.
exactement.
Les cônes oranges, là, ça fait des années et des années,
Ben
c'est
oui, ben oui, ben
non-stop.
oui, ben oui, ben oui.
Puis on en a encore pour longtemps.
Oui, avez-vous vu ce matin la caricature dans je ne sais plus quel journal, mais on voit, c'est dans Le Devoir, c'est Garnotte, on voit Monsieur Coderre sur un bixi, puis qui dit, parce que vous savez que finalement Montréal a décidé de ne pas rendre le casque obligatoire,
Oui.
et là Monsieur Coderre dit, ben on peut bien se mettre chacun ce qu'on veut sur la tête, et lui il a choisi un cône orange. Ben non, t'en vas pas tout de suite, on va se dire au revoir. Merci beaucoup, Gérard. Ben, c'était bien intéressant tout ça. Je suis contente que vous ayez choisi ces sujets-là pour nous éclairer un peu avec tout ce qui s'écrit dans les journaux du jour.
Oui, puis on a des bonnes choses quand même qui traitent de ces sujets-là
Ben
par les
oui,
temps qui
c'est ça.
courent.
Ben oui,
Oui.
exactement. Hein, là, il y en a beaucoup. Alors, c'était Gérard Cyr qui est venu pour m'appuyer, m'épauler ce matin et que je remercie encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, mardi
Ben, à
prochain.
bientôt, oui.
D'accord, merci.
Allez Montréal, oui, une chanson qui est bien à propos aujourd'hui parce que c'est ce soir que débute le calendrier préparatoire du Canadien de Montréal dans un match qui va les opposer aux Maple Leafs. C'est bon, l'alignement de départ pour le match de ce soir vient tout juste de sortir 1 minute avant que j'entre en onde. Et c'est Carey Price et Zachary Fukale qui vont se partager le filet pour cette première rencontre. Parmi les vétérans qui vont aussi chausser les patins ce soir, il y a Thomas Plekanec. Il y a Jeff Petrie, Alex Emmeline, Brendan Gallagher. On va aussi voir à l'œuvre Jacob Delarose, Michael McCarron, Tim Boson, Christian Thomas et plusieurs autres. C'est dès 19h ce soir. Et maintenant, bien, c'est Kevin, en passant, qui est au micro. Je ne l'avais pas dit, mais je suis là pour quelques minutes pour prendre la relève de Clotilde. Et je vais enchaîner maintenant avec un article de Guillaume Lefrançois tiré de la presse d'aujourd'hui, qui est titré Un capitaine de la génération de Carey Price. En 8 saisons avec le Canadien, Carey Price a connu 2 capitaines, ceux de Saku Koivu et Brian Gionta. Il s'apprête maintenant à vivre le règne de Max Pacioretty. Le gardien du tricolore s'est adressé hier aux médias pour la première fois depuis que l'équipe a confirmé que Pacioretty porterait désormais le C. Et pour la première fois de sa carrière, Price composera avec un capitaine de sa génération. Koivu était bien en selle quand Price est arrivé à Montréal. Quand Gionta a été nommé en 2010, Yaroslav Halak venait tout juste de partir et le numéro 31 tentait de reprendre sa place comme gardien numéro 1 du CH. Cette fois, seulement 15 mois séparent Price et Pacioretty. Les deux joueurs ont grandi ensemble dans l'organisation et l'homme masqué est bien placé pour parler du nouveau capitaine. Il dit « Patch est celui qui a gagné le plus rapidement sa maturité parmi le groupe de ma génération. Il a une bonne tête de hockey, il est à son affaire et ça déteint sur les autres. C'est un bon choix. » Il poursuit en disant que Patch a les qualités pour être un bon meneur. Sans surprise, le gagnant des trophées Vezina et Hart a aussi donné sa bénédiction à l'ajout de Brendan Gallagher dans le groupe d'adjoints, un autre bon choix. Il a montré de la maturité, ses habitudes de travail montrent le genre de joueur qu'il est. Price a aussi pu voir de plus près le nouveau format de prolongation qui sera adopté cette saison dans la LNH, le jeu à 3 contre 3. Cet aspect du jeu a été mis à l'épreuve dans la rencontre intra-équipe de dimanche au Centre Bell. Évidemment, les gardiens ne seront pas exactement friands de ces situations qui n'ont rien pour les favoriser. Price a dit « J'ai très peu d'expérience, à l'exception du hockey d'été ». Le gardien a toutefois vu le verre à moitié plein et a préféré rappeler les conséquences positives qu'il pourrait tirer de ce changement. On ne sait jamais, ça me donnera peut-être la chance d'obtenir quelques aides de plus. Car à une époque où le jeu est moins ouvert que jadis, Price ne compte que 11 mentions d'aide en 435 matchs dans la LNH. Avec ses habilités à passer la rondelle, le jeu à 3 contre 3 pourrait effectivement lui sourire. On passe maintenant au Journal de Montréal d'aujourd'hui. Dave Lévesque écrit « La défensive n'est plus le talon d'Achille de l'Impact ». Effectivement, il n'a accordé qu'un but lors des 3 dernières rencontres. Il y a une séquence de 4 matchs sans défaite, mais il y a plus que ça dans les récents succès de l'Impact. Cette série heureuse s'est amorcée par une victoire de 4-3 contre le Fire de Chicago, qui revient au stade Saputo demain soir. Mais lors des 3 matchs suivants, l'Impact n'a accordé qu'un seul but, et c'est ce qui est le plus important. Didier Drogba mentionnait d'ailleurs après la victoire de 3-0 contre la Nouvelle-Angleterre samedi que c'était surtout le jeu blanc que les joueurs appréciaient dans le résultat. C'est extrêmement positif, surtout quand on a des défenseurs qui jouaient pour la première fois ensemble, a noté Mauro Biello. Quand tu as de la sécurité en défense, ça amène de l'attaque. Hein? Comme le dit le bon vieux proverbe, la meilleure des défenses, c'est l'attaque, ou vice-versa. Dire que la défense était le talon d'Achille de l'équipe depuis le début de la saison, c'est une grande satisfaction parce que la défense était notre point faible depuis le début, admet Assoun Camara. Ironiquement, il semble que l'Impact aura eu besoin d'une sécheresse offensive le mois dernier pour que la défensive prenne du coffre. Dès le début de saison, on n'a pas eu de difficulté à marquer des buts, a rappelé Evan Bush. Nous avons eu un passage à vide de quelques rencontres et c'est à ce moment que la défense a commencé à prendre forme. Nous sommes très heureux de n'avoir accordé qu'un seul but à nos 3 derniers matchs contre 3 très bonnes équipes. Le gardien de l'Impact prévient qu'il ne faut pas faire d'excès de confiance, mais croit au grand potentiel de l'équipe. On ne peut jamais être trop confiant, c'est quand tu deviens arrogant que ça peut être dangereux. Je pense que nous pouvons aller jusqu'au bout, nous avons beaucoup d'attaques avec Didier et nos ailiers, on peut faire des dommages. L'Impact est présentement au 6e rang dans l'Est avec 36 points. Avec une récolte potentielle de 6 points après une récolte potentielle de 6 autres points cette semaine, l'Impact peut commencer à regarder en direction de Toronto, qui est au 5e rang, et du DC United, qui est au 4e rang. Notre priorité reste d'avoir notre place, mais avec 4 bons matchs, on commence à regarder devant. Mais le match de samedi contre DC n'a de signification que si nous gagnons mercredi. C'est un texte de Dave Lévesque dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Maintenant, une chronique qui m'a fait bien sourire de Sylvain Ménard dans le métro d'aujourd'hui. Le titre, Alouette, chronique des temps durs. Il dit « J'ignore s'il s'agit d'une composante essentielle de leur ADN, mais les équipes professionnelles font souvent montre d'une assurance inouïe quand ils font affaire avec leurs clients. Quand ce n'est pas le Canadien qui charge 5 $ pour vous livrer, hein, c'est mis entre guillemets, un billet électronique que vous allez recevoir par courriel et que vous devrez imprimer chez vous avec votre encre sur votre papier, v'là-t-il pas les Alouettes qui débarquent avec une attitude de big shot. Non, mais pour qui je me prends? » D'écrire Sylvain Ménard. Je suis un fier abonné depuis 1998 et mon offre de renouvellement pour la prochaine saison vient tout juste d'entrer. Modification au deal habituel, je suis dorénavant obligé d'acheter un billet pour un match éliminatoire hypothétique, ce qui ajoute une 11e partie à mon forfait. Pourquoi en est-il ainsi? La raison est toute simple, mais l'organisation ne va jamais la donner. Le 16 novembre 2014, la demi-finale de l'Est contre les Lions de la Colombie-Britannique fut joué devant des gradins à moitié vides du stade Percival Molson. Pas tout le monde qui aime se les geler, voyez-vous. Pour que cette situation ne se reproduise plus, rien de plus simple, tu forces ta clientèle la plus fidèle à acheter le billet avec le reste de l'abonnement. Même si ton client veut rien savoir de l'affaire, la demi-foule de l'an passé me confirme que je ne suis pas le seul à penser ainsi. Hein? On le comprend, là. Aller voir du football à l'extérieur rendu à la mi-novembre, là, il commence à faire froid. Au bureau des Alouettes, on m'a répondu que si on ne fait pas les séries, on va vous créditer le trop payé sur votre facture la saison suivante. Ben qu'un, de répondre Sylvain Ménard. Et l'année d'après, tant qu'à y être. Et en attendant, les amis, l'argent que vos abonnés vous prêtent sans intérêt pendant un an, autour de 1 million de dollars, selon les calculs de M. Ménard, vous en faites quoi? Pas sûr qu'il s'agit là d'une bonne manière de garder ses fans de longue date. J'avoue qu'après 18 ans de fréquentation, j'ai subitement envie de quitter le nid. Avec des amis comme ça, trois petits points. Eh bien, j'aurais probablement pas le temps de tout vous lire, mais j'avais découpé trois dépêches du Journal de Montréal qui font état de la triste nouvelle du bagarreur Todd Ewen du Canadien de Montréal, un ancien du Canadien qui a été retrouvé mort récemment, et on a appris que c'était le résultat d'un suicide. Il y a une entrevue avec Chris Nyland, c'est titré par Jonathan Bernier, qui dit que celui-ci refuse de blâmer rien que les bagarres pour la situation. Le suicide de Todd Ewen, comme celui des autres anciens hommes forts décédés récemment, a pris tout le monde par surprise. Chris Nyland, qui a joué brièvement à ses côtés au début des années 90, n'aurait jamais prédit une telle fin pour le Saskatchewanais de 49 ans. C'est le dernier gars de qui j'aurais cru cela possible. J'étais sûr que la vie allait bien pour lui. Il était marié, il avait des enfants, il travaillait, a indiqué Nolan, croisé par le Journal de Montréal, au Centre sportif de Brossard. Ewen, qui a soulevé la Coupe Stanley dans l'uniforme du Canadien en 93, a été retrouvé sans vie à son domicile de Wildwood, au Missouri, samedi. La police a conclu que l'ancien hockeyeur se serait enlevé la vie à l'aide d'une arme à feu. Dans les heures suivantes, le décès de Ewen, des proches ont confié qu'il souffrait de dépression. Je l'ai croisé il y a 2 ans au lancement du documentaire The Last Gladiators à Toronto. Il avait le grand sourire et jasait beaucoup. Je ne me serais jamais douté qu'il souffrait d'une dépression, de dire Chris Nyland. Alors âgé de 33 ans, Nyland en était à son dernier tour de piste lorsqu'il est revenu dans la métropole québécoise pour les 17 derniers matchs de la saison 91-92. Dans le vestiaire, Lyle O'Deline et Ewen étaient alors les redresseurs de tort de l'équipe. J'ai rapidement constaté que Todd était un excellent joueur d'équipe et tout un gentleman, a confié Nyland. Par contre, ce que je trouvais étrange, c'est sa fascination pour les bandes dessinées. Il les collectionnait toutes. Je n'arrivais pas à concevoir qu'un gars puisse à la fois aimer se battre et aimer les petits bonhommes. Et pourtant, le tatouage de Boom Boom des pierres à feu que Ewen abordait sur l'un de ses avant-bras témoignait bien de cette passion. On rappelle que Ewen est le dernier d'une étrange série de victimes d'hommes forts dans la LNH qui se sont enlevés la vie après Rick Ripien, Steve Montador, Wade Belake et Derek Bougard ces dernières années. Alors que j'accueille sur une note plus joyeuse Mesdames Clotilde Seille et Christiane Campagnan. C'était tout pour le bulletin du sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là.
Mais j'en reviens pas, vous connaissiez tous ces noms-là par cœur?
Oui. Ben oui, mais ils m'ont tous ému, ces décès-là,
mais
parce
oui,
que
mais je vous
c'est
comprends.
Des joueurs que j'ai vu jouer, moi. J'ai
mais
grandi
oui,
avec eux.
Mais oui, ben absolument. Non, mais ça, je peux mais c'est sûr que c'est toujours, touchant de
c'est
voir
tragique,
un,
oui.
des bonhommes comme ça, tu sais, qui finalement, qui jettent les gants et puis plus tard, bah, qui se ramassent en état de dépression sévère et qui s'enlèvent la vie. Je veux dire, s'enlever la vie avec une arme à feu, faut le vouloir.
Ouais. Hein, souvent, c'est pour pas appuyer des joueurs, sur le... C'est pas des joueurs qui ont gagné de très gros salaires. C'est pas des joueurs qui gagnaient 1 million de dollars par année.
Non.
C'est des joueurs qui se contentaient de salaires qu'on peut qualifier de maigres dans les circonstances.
Ouais. Là, enfin donc, bon, ils étaient quand même pas à plaindre. Mais non. Par contre, quand ils arrêtent de jouer, si ces gens-là n'ont pas mis d'argent de côté, ils sont foutus, quoi.
Surtout qu'ils ont souvent la santé en piètre état parce qu'ils
exactement.
Ont des points sur la gueule.
Pendant... Exactement. Pendant. Merci beaucoup, Kevin. Fort intéressant. J'étais sûre que vous alliez aborder ce sujet-là avec nous. J'accueille maintenant une autre voix de service que vous connaissez bien, c'est l'ami Christiane Campagna. J'adore ce petit air de jazz. J'adore. C'est toujours pour accueillir à la même heure, vers 11h12 par là, quelqu'un de l'équipe, animateur, recherchiste ou encore Kevin aussi qui participe à ça, qui est notre spécialiste des médias sociaux, qui essaie de diffuser toutes ces belles et bonnes émissions que nous faisons ici via les médias sociaux. Mais les médias sociaux, Christiane Campagna, rebonjour, c'est aussi votre truc, hein?
Oui.
Vous aimez ça?
Et sauf que, quand on baigne dedans, on les prend pour acquis, quand on est habitué à la technologie.
Oui.
Or, ce matin, je vais vous lire un texte qui est paru dans le journal Métro au mois d'août, le 25 août, par Roxane Lauzon, qui parle des exclus.
Ah oui, on les oublie un peu trop.
Voilà. Vivre sans Internet les exclut. Environ 13,5% des Québécois n'utilisent jamais l'Internet, selon un vaste sondage du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, le CIFRIO. Qui sont ces gens? Dans un premier temps, Métro vous présente la portion d'entre eux qui sont des non-internautes bien malgré eux. Un groupe de citoyens réclame que le gouvernement du Québec développe un programme pour leur venir en aide. Ça ne fait que 3 ans que Lynn Lalumière s'est envoyé un courriel. Comme un handicap physique et des problèmes d'apprentissage l'empêchent de travailler et qu'elle ne possède qu'une éducation de niveau secondaire, la femme de 53 ans n'avait jamais appris à utiliser les outils informatiques qui étaient, par ailleurs, bien trop dispendieux pour ses moyens. Pour participer à certaines activités, il fallait que j'apprenne à communiquer par courriel, a fait remarquer Mme Lalumière, qui a pris des cours d'initiation à l'informatique auprès de l'organisme Parole d'exclus. Lise Vincelette est dans une situation similaire. Elle commence tout juste à se débrouiller avec Google. Me trouver un emploi a été difficile. Comme tout est informatisé aujourd'hui, ceux qui veulent améliorer leur sort n'ont pas le choix d'utiliser Internet, a commenté la femme de 64 ans. Ce qu'ont vécu mesdames Lalumière et Vincelette est généralement appelé exclusion informatique. Pour se tenir informé, savoir où voter, demander de l'aide gouvernementale, inscrire son enfant à des programmes, on a aujourd'hui besoin d'Internet, presque autant que de savoir lire et écrire, a souligné Mélanie Valsin, gestionnaire des activités pour le Québec de Collège Frontières, un organisme d'alphabétisation. D'après les organismes communautaires qui offrent des cours et des ateliers d'initiation aux outils informatiques, l'exclusion touche des gens de divers profils.
Mm-hmm.
Des personnes âgées qui n'ont jamais pris le virage numérique, des jeunes décrocheurs, des immigrants qui veulent s'intégrer au marché du travail. Beaucoup sont dans une situation financière précaire. Tout comme Mme Vincelette, de nombreux non-internautes ont de la difficulté à faire une recherche d'emploi. Ils vivent souvent une double exclusion. Ils ne possèdent pas les compétences nécessaires à l'utilisation de l'Internet, ni les outils physiques, comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones, qui coûtent très cher. Ne pas avoir accès à l'Internet est un facteur d'appauvrissement, note pour sa part Malika Alouache, coordonnatrice du secteur informatique au Centre d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles.
On considère que c'est un appauvrissement. Hein? C'est,
oui.
C'est ce que vous venez de dire. Hein?
Ben, c'est un cercle vicieux. Vous n'avez pas les moyens de vous offrir les outils.
Oui. Ah, OK. Là, on parle vraiment d'appauvrissement. OK. Au premier degré. Pardon. Moi, je pensais intellectuel.
Non, mais c'est que vous n'avez pas... Puis en plus, ces compétences-là sont demandées pour les emplois aussi.
Oui, oui.
Ça vous freine dans votre recherche d'emploi et dans vos compétences pour trouver... Oui. Cet emploi-là.
Sans compter que ça coûte très cher, effectivement. Je m'excuse, hein, je viens d'avoir une image dans les yeux. J'ai vu un reportage hier aux informations françaises où ils ont demandé à un ingénieur, à un spécialiste en technologie comme ça, en genre iPhone intelligent, ils ont démantibulé un iPhone. On a bien vu que c'était la marque Apple. Et vraiment, au début, donc, il enlève tout, il prend une ventouse pour décoller l'écran, parce que c'est comme ça qu'ils font, finalement. Et là, il a tout mis en pièces. Hein. Il a tout mis en pièces. Et là, il dit, ben voilà, ça coûte tant. Voilà. Bref, un téléphone intelligent qui coûte aujourd'hui, en fait, 900 $, ça coûte en pièces 200 $. Vous imaginez?
Oui.
On paye 700 $ de plus que ça devrait coûter. Bon, évidemment, il faudrait faire une marge de profit, mettons 300. Mais c'est énorme. Alors, j'en reviens.
Et puis, généralement, l'écart entre ce que ça coûte pour faire l'appareil et le prix où on le vend est plus grand avec la marque de la pomme qu'avec d'autres marques.
Oui, en plus.
Parce qu'on paye pour cette marque-là.
Exactement.
Alors, c'est pour ça que tous ces organismes-là demandent en fait au gouvernement de créer un programme. Ils ont aussi interpellé la Ville de Montréal. Le groupe informatique pour tous souhaite rencontrer le bureau de la Ville intelligente de Montréal pour demander l'installation de zones Wi-Fi gratuites dans les quartiers les plus touchés par l'exclusion informatique. Et ils ont eu une réponse positive, en fait. On prévoit un déploiement progressif du Wi-Fi dans le domaine public, a expliqué Arud Chitilian, l'élu responsable de la Ville intelligente. On va commencer avec le centre-ville, puis les nombreux édifices publics, et conclure avec les artères importantes dans tous les quartiers. On va écouter les élus locaux qui sont bien renseignés sur les besoins de leur communauté et on est confiant d'avoir une bonne couverture. La Ville compte également élaborer un programme de littératie numérique pour aider les citoyens à utiliser ces outils qui sont mis à leur disposition. Ces projets doivent être réalisés d'ici 3 ans, selon M. Chitilian, mais il ne connaît pas encore les budgets spécifiques qui seront alloués à ces projets parce qu'évidemment, même si la Ville prend des initiatives, souvent elle est dépendante de Québec. Pour ce qui est du financement.
Alors, c'était signé par qui, ce
papier-là? Par Roxane Lauzon, dans le journal Le Métro.
Merci beaucoup, Christiane. Et on s'en va en région, ça a créé, alors c'est une véritable bombe, ça a créé une commotion terrible. Jean Tremblay a déclaré, évidemment le maire de Saguenay, qu'il a décidé qu'il renonçait à solliciter un nouveau mandat à la veille d'un sondage défavorable, un sondage qui le donnait arriver deuxième, donc perdant. Et donc, il a décidé qu'il allait quitter la mairie. Jean Tremblay, quand je vous dis que c'est une bombe, c'en est une vraie parce que on s'attendait à ce que cet homme-là soit indéracinable de son siège à la mairie. Du coup, ça donne lieu à un éditorial signé François Saint-Gelais dans Le Quotidien qui dit « Jean Tremblay a lancé une énorme bombe hier en annonçant sur sa page Facebook qu'il se retirait de la vie politique, il se retirerait de la vie politique à l'issue de son mandat qui prend fin en 2017 ». Or, dit M. Saint-Gelais, si le moment et la manière utilisés par le maire pour faire cette annonce ont de quoi surprendre, la décision, elle est sage et à propos. Le modèle, le style, l'approche Jean Tremblay sont rendus au bout de leur capacité, de leur potentiel. Les déclarations colorées, la poigne et le caractère bouillant du maire de Saguenay, des ingrédients qui ont longtemps fait sa force et assuré sa grande popularité, sont devenus des irritants pour de nombreux électeurs. Ses atouts, utiles dans un autre contexte, étaient de plus en plus en voie de devenir des faiblesses. Depuis les élections de 2013, la tendance était claire, le maire ne rejoignait plus autant de citoyens. La chimie qui lui avait permis d'atteindre des niveaux d'appui stratosphériques n'opérait pas aussi bien. À la preuve, les résultats du sondage, alors Segma recherche le quotidien Rouge FM démontrant qu'il ne compte plus actuellement que sur l'appui de la moitié des électeurs de Saguenay, c'est beaucoup moins. En mars dernier, un autre sondage réalisé par Segma pour le compte de Kik FM avait révélé un appui, un soupçon à peine plus élevé. Dans la foulée de ce coup de sonde, Jean Tremblay avait d'ailleurs indiqué prendre acte de la situation et affirmé qu'il comptait modifier son comportement et son approche en conséquence. Et à ce moment, le premier citoyen de Saguenay a entamé une profonde réflexion, une réflexion qui a abouti finalement hier. Jean Tremblay n'avait plus rien à prouver. Il n'aurait rien eu à gagner à solliciter un nouveau mandat à l'automne 2017. Il quittera sans subir les affres d'une possible défaite électorale, dit M. Saint-Gelais. Il pourra se retirer sans jamais avoir été vaincu dans les urnes. Justement, les deux prochaines années seront cruciales quant à la définition de la perception que le maire Tremblay laissera dans l'image populaire régionale. Pour quitter sur une bonne note, il n'aura d'autre choix que d'adopter un ton plus conciliant, de laisser plus de place aux échevins qui l'entourent. Il devra les consulter davantage. À compter de maintenant, ne serait-ce que parce que les aspirants à la mairie voudront commencer à se positionner, une nouvelle dynamique s'instaure à Saguenay. À travers celle-ci, les intérêts des citoyens ne devront toutefois pas être oubliés. Dans le soleil, et ça fait la une du reste, on nous dit, on en parlait d'ailleurs dans tous les journaux ce matin, la ville de Québec compte accueillir jusqu'à 800 personnes, 800 réfugiés syriens au cours de la prochaine année seront attendus et accueillis par Québec. Une opération extrêmement complexe pour laquelle il n'y a aucune place à l'improvisation, a dit le maire Régis Labeaume. Sans sécurité, francisation, éducation, logement, santé, pardon, pas sans, santé, et sécurité, francisation, éducation, logement, accueillir deux fois plus de réfugiés que la capitale n'en reçoit généralement en un an sera un défi. Au point où une quarantaine d'organismes sont impliqués pour prévoir tous les domaines touchés par une telle arrivée. La ville souhaite recevoir en priorité de 125 à 200 familles pour sortir les enfants des affres de la guerre, a dit M. Labeaume en conférence de presse, accompagné de l'élu responsable des communautés culturelles Chantal Gilbert, de Marie-Claude Gilles, présidente du Centre multiethnique de Québec, de Claude Foster, directeur général de l'Office d'habitation de Québec. « Nous, on est prêts, sauf que les gouvernements doivent répondre à nos questions », a indiqué M. Labeaume. « On veut savoir où les gouvernements s'en vont », a-t-il ajouté, en évaluant les coûts de l'opération à 3,8 millions de dollars de fonds provinciaux et fédéraux pour 500 réfugiés et 5,2 millions de dollars pour 800 réfugiés. La ville de Québec a décidé de donner priorité à l'accueil de familles plutôt que de célibataires. Les familles sont les plus vulnérables. Notre souhait est de sauver les enfants, a dit M. Labeaume. D'origine syrienne lui-même, le ministre responsable de la capitale nationale, Sam Ahmad, a eu plutôt une journée de bons mots pour la position de Québec dans ce dossier. Je vais le féliciter pour son initiative et surtout le féliciter pour sa générosité et son grand cœur. Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Paul Chouari, a pour sa part dit apprécier l'idée de favoriser les familles. Monsieur Chouari a aussi indiqué hier que son grand-père était d'origine syrienne et qu'il avait fui sa région à la frontière du Liban et de la Syrie au début du XXe siècle. Luc La Rochelle revient, lui, sur un sujet qui est plutôt national et international, mais je n'ai pas vu d'autres personnes en parler. Ça s'appelle la douleur conventionnée. C'est dans la Tribune. « Voyons donc, dit Luc La Rochelle, ce serait trop gros, grotesque même. La diplomatie mondiale ne sera jamais assez stupide pour confier à l'Arabie saoudite un poste d'influence au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, m'étais-je dit ?» C'était donc dit M. La Rochelle le printemps dernier après avoir lu qu'un ambassadeur de ce pays partait en cabale. En sot, j'ai cru que la bêtise humaine n'irait pas jusque-là. Mais non, c'est bel et bien un émissaire de la monarchie saoudienne, Faisal Trad, qui s'est vu confier la présidence du comité consultatif qui désignera les experts chargés de veiller sur le respect des standards internationaux de liberté. Dites-moi que c'est l'assurance d'un monde plus juste, écrit M. La Rochelle. Les Nations unies, c'est du sérieux. Dans l'un des rapports de l'ONU, le Royaume d'Arabie saoudite s'efforce de présenter en toute transparence et au moyen d'informations fiables les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Saviez-vous, dit M. La Rochelle, que les droits de l'homme font partie des plans éducatifs des écoles maternelles, des établissements d'enseignement en général et que le droit international humanitaire fait désormais partie des programmes d'enseignement supérieur en Arabie saoudite? Si, c'est écrit ainsi dans le dernier rapport périodique que ce pays a fourni. Cet exemplaire est édifiant, non? La protestation des États-Unis, les critiques de nombreux pays européens et le mouvement planétaire en faveur du blog Raif Badawi ne seraient que d'injustes accusations. L'intransigeance et la brutalité de ce régime n'existeraient que dans nos têtes. Une fois qu'il aura reçu la totalité de ses 1000 coups de fouet et servi sa peine de 10 ans de prison pour ses crimes d'opinion, M. Badawi demeurera enchaîné durant 10 années supplémentaires dans son pays avec interdiction totale de sortir. L'Arabie saoudite vante pourtant devant les Nations unies ses pratiques exemplaires de réinsertion via un bureau de conseil visant à juguler les idéologies terroristes et à mettre en lumière les comportements suspects. Les prisonniers sont guidés vers ce qui est bon pour eux afin qu'ils puissent retrouver la tranquillité d'esprit nécessaire pour jouer un rôle constructif dans la société. Et La Rochelle qui dit « Et l'ONU achète ça ?» Il y a des bémols dans le rapport onusien, dont la recommandation 8B proposant de reconsidérer l'imposition de châtiments corporels. À cela, le royaume oppose ses croyances religieuses et son système judiciaire basé sur les préceptes de la charia. Il réplique tout de go en écrivant « L'article 1er exclut du champ d'application la douleur ou les souffrances résultant de sanctions légitimes ou occasionnées par elles. Considérés sous cet angle, les châtiments corporels ne sont pas contraires à la Convention », interprète-t-il plutôt. D'ailleurs, je pourrais vous dire aussi qu'à la une de la Tribune, ce matin, on voit la femme de Raif Badawi, alors qu'elle s'inquiète, elle a l'impression que son mari va effectivement subir les coups de fouet promis et redoutés par les Saoudiens. La bataille continue. On s'en va à l'international. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vous avouerai que j'ai un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe en Grèce. Tsipras qui démissionne, et puis là Tsipras qui revient, et puis Tsipras qui finalement est élu, mais vous allez comprendre, comme moi maintenant, grâce à Guy Taillefer qui signe un éditorial ce matin qui s'appelle « L'occasion de gouverner » et qui nous rappelle. Le 25 janvier dernier, Syriza, parti de la gauche dite radicale, fondée en 2004, prend le pouvoir pour la première fois. « Aujourd'hui, nous avons mis fin à l'austérité », annonçait alors triomphalement Alexis Tsipras. Mais dimanche, il était moins catégorique. « Devant nous s'ouvre la voie du travail et des luttes », a-t-il écrit sur Twitter. Entre les deux, une crise existentielle comme l'Europe en a rarement connue. Si l'électorat grec a décidé de refaire confiance à Syriza, c'est quand même 35,5% des voix qu'il a reçues, c'est en partie par défaut, nous explique M. Taillefer. Sans doute, en tout cas. Si les électeurs avaient choisi de punir le Premier ministre pour ses pirouettes, cela aurait ouvert la porte au retour des conservateurs du vieux parti de la Nouvelle Démocratie. ND, eux, ils ont reçu 28%. Et la Nouvelle Démocratie, ce vieux parti, c'est l'incarnation de la Grèce clientéliste et corrompue, c'est-à-dire les purs, aigus et durs. Autrement dit, oui, c'est ça, c'est vraiment la Grèce corrompue telle qu'on la connaît, avec les armateurs qui possèdent tout le pognon, les yachts et compagnie de ces gens qui ne payent pas d'impôts, c'est cette Grèce-là. Alors, lui, ce qu'il dit, monsieur Taillefer, c'est que les purs et durs de la gauche auront ensuite eu l'intelligence d'éviter de diviser le vote. Le fort taux d'abstention, quand même, environ 44%, a traduit de la fatigue électorale, certes, mais il s'expliquerait aussi par le fait qu'une partie de la gauche, ne pouvant se résigner à revoter pour Syriza, ne se serait tout simplement pas présentée aux urnes, avec le résultat que l'unité populaire, créée par des dissidents de Syriza après la capitulation de Tsipras en juillet dernier aux pieds créanciers, n'a même pas réussi à franchir la barre des 3% de vote nécessaires pour entrer au Parlement. Tout cela pour dire que les Grecs, contents de pouvoir garder encore la tête hors de l'eau et de continuer de faire partie de la zone euro, se sont réveillés lundi matin dans un état d'expectative. Alexis Tsipras est demeuré populaire auprès d'eux envers et contre tout parce que sa résistance et sa reddition à Bruxelles furent aussi les leurs. D'élection en référendum, en élection, l'homme a fait preuve jusqu'à maintenant d'un flair politicien assez extraordinaire, assez impressionnant. Alors, comment exercer le pouvoir à gauche dans des conditions pareilles en Grèce? Le Premier ministre a 4 ans pour tenter de résoudre cette quadrature du cercle. La tension monte au Burkina Faso. Le président des institutions de transition du Burkina Faso, placé en résidence surveillée par les putschistes de la garde présidentielle, a été libéré dans la nuit de lundi à mardi, alors que des unités militaires loyalistes convergeaient vers Ouagadougou. Sur Twitter, l'ambassadeur de France au Burkina, Gilles Thibault, a annoncé que Michel Cafando est à la résidence de France. M. Cafando avait été arrêté, on vous le rappelle, mercredi, en plein conseil des ministres par des militaires putschistes qui avaient ensuite annoncé sa libération à la faveur d'une médiation ouest-africaine. Il avait été placé en résidence surveillée depuis. Quelques heures plus tôt, les chefs de l'armée avaient intimé l'ordre aux putschistes de déposer les armes et prévenu que des unités de province convergeaient vers la capitale. Toutes les forces armées nationales convergent vers Ouagadougou dans le seul but de désarmer le régiment de sécurité présidentielle, la RSP, la garde présidentielle, sans effusion de sang, indiquait dans l'après-midi un communiqué signé des chefs de corps de l'armée nationale burkinabé, sans préciser leur nom. Dans la foulée, le chef d'état-major des armées, le général Pingré-Noma Zagré, a invité les hommes du RSP à déposer les armes et a demandé au reste de l'armée d'éviter tout affrontement et d'assurer un bon accueil aux frères du RSCP dans un communiqué. Mais là, si les uns et les autres n'obtempèrent pas, ça risque de faire, encore une fois, de provoquer un déversement de sang dont on se serait bien passé de ce côté-ci du monde. Puis rapidement, à Cuba, le pape François a rendu un hommage appuyé lundi aux efforts et aux sacrifices de l'Église dans une société cubaine en pleine transition devant une foule de fidèles à Holguín, dans l'est de Cuba. « Je sais au prix de quels efforts et au prix de quels sacrifices l'Église à Cuba travaille pour porter à tous, jusqu'aux endroits les plus éloignés, la parole et la présence du Christ », a déclaré le pape pendant une messe en plein air. François a en mentionné en particulier les maisons de mission qui, face au manque de lieux de culte et de prêtres, permettent à de nombreuses personnes d'avoir un espace de prière, de catéchèse et de vie de communauté catholique. À Cuba, donc, le nombre des catholiques est évalué à 10% de la population, même si celui des baptisés est plus important et si l'Église joue un rôle non négligeable avec ses structures sociales, éducatives, médicales, qui souvent pallient les manques des services publics du régime communiste. Cotizada y amada, feliz distracción. Et quelques nouvelles brèves en rafale. Le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, abandonne la course. Un temps considéré comme une étoile montante du Parti républicain, le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a abandonné la course à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche. C'est une nouvelle victime collatérale de l'ascension de Donald Trump. En Indonésie, c'est bien triste, un Yangki, un célèbre éléphant de Sumatra, a été tué et dépouillé de ses défenses, ce qui a suscité des réactions de colère sur les réseaux sociaux. Sa dépouille a été retrouvée près du camp où il vivait. Donc, autrement dit, on vit la même crise par rapport aux éléphants en Indonésie qu'en Afrique. Et ça fait pitié de voir cette bête, énorme bête, privé de ses défenses, évidemment, il a dû souffrir beaucoup, puis saigner beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très, très triste. Au Royaume-Uni, Cameron est accusé d'excès de débauche, drogue et actes à connotation sexuelle. Une biographie non autorisée à paraître en octobre accuse le Premier ministre David Cameron d'avoir commis des excès lors de ses années étudiantes à Oxford. Les premiers extraits ont enflammé les réseaux sociaux, apparemment. C'est incroyable comment on peut déterrer des trucs pareils. C'est comme quand on a déterré que M. Mulcair avait traité chez les gens du Nouveau-Brunswick de Newfie. Non, mais attendez, là, on parle de il y a combien de temps? À un moment donné, il y a prescription. Sinon, Hillary Clinton, et je vais m'arrêter là pour l'international, Hillary Clinton affirme qu'un musulman peut être président. C'est un papier de l'AFP. La question pourrait devenir un test pour les candidats à la présidentielle américaine. Être musulman est-il un motif de disqualification pour la Maison-Blanche? Hillary Clinton a tenté de contrer l'ambiguïté de certains républicains hier. Elle a déclaré un musulman peut-il être président des États-Unis d'Amérique? En un mot, oui. Alors maintenant, passons à autre chose, a déclaré Hillary Clinton. J'ai quelques nouvelles culturelles avant de retrouver notre amie Christiane Campagna pour le bulletin du handicap. Mathieu adore ce thème de M. Shostakovich. C'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Bon, alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je fonce tout de suite sur le Festival international de littérature qui présente jeudi soir un spectacle vraiment inusité. C'est Gainsbourg avant la musique, écrit Caroline Monpetit, dans la lumière crue des mots. S'amuse, Jane Birkin, ainsi que les comédiens Michel Piccoli et Hervé Pierre seront à Montréal pour un seul soir. Jeudi, et diront les mots de Gainsbourg sur scène, invité par le Festival international de littérature. Et la prose de Gainsbourg ne perd rien à se déshabiller un peu, au contraire. En entrevue, Jane Birkin raconte comment on redécouvre chacun des textes, du plus fou au plus sombre, sans la musique. Même grand-mère, l'actrice, a gardé sa voix flûtée et son accent d'anglaise au téléphone. Et elle dit des chansons comme « Poupée de cire, poupée de son » ont été écrites pour France Gall, bien avant moi. Je croyais que c'était des chansons légères, qui ne valaient pas grand-chose. Mais quand on enlève la musique, c'est désespéré, c'est fou, dit-elle. Ça, je vais aller réécouter ça. Vous vous souvenez de ça? Je suis une poupée de cire, une poupée de son. As-tu ouvert ton micro? Pff, non, ben c'est ça, comme ça, j'aurais pas eu l'air niaiseuse à chanter toute seule.
Non, mais c'était magnifique.
Merci. Mais il paraît que... Non, je vais aller relire le texte de cette chanson-là, désespérée. Donc, interprétée successivement par Michel Piccoli et Hervé Pierre, les variations sur Marie-Lou livrent aussi au milieu du silence leur érotisme brûlant. Ça ressemble un peu au poème pour Dolores de Nabokov. C'est tout aussi troublant, sinon plus, poursuit Jane Birkin. Gainsbourg avait refusé d'écrire pour Édith Piaf, arguant qu'il lui fallait des chansons à Piaf qui sortaient du ventre alors que lui, il aimait jouer avec les mots. C'était un adepte de la rime riche, poursuit Jane Birkin. Il n'aimait pas dire le mot chéri ou les choses trop simples. Il avait toujours son dictionnaire de rimes devant lui. Jadis, Serge Gainsbourg a séduit Jane Birkin en lui offrant une petite liste de chansons cruelles. Il lui a aussi lu deux livres à voix haute, Madame Bovary de Flaubert et Adolphe de Benjamin Constant. En lisant Madame Bovary, il pleurait. Se souvient Jane Birkin. Oui, voilà, ça c'est jeudi soir. J'ignore s'il reste des billets. S'il en reste, je vous en reparle le vendredi parce que très certainement que je serai là. Je vais tout de suite passer à M. Cassivi. D'après lui, la chicane est loin d'être terminée. Il fait référence aux Gémeaux, à tout ce qui s'est dit de tellement gentil et au milieu de tout ça, quand même, la petite phrase assassine et laconique de M. Martin Matt.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit.
Alors, monsieur, merci beaucoup, Mathieu. C'était excellent comme timing, ce Marie-Lou que j'ignorais que nous avions ici. Voilà, la chicane n'est pas finie, dit Cassivi. Il est toujours rassurant d'entendre quelqu'un parler franchement. Ce l'est encore davantage ces jours-ci, alors que s'éternise une campagne électorale interminable, où les partis rivalisent de stratégies électoralistes, d'épouvantails voilés et de demi-vérités afin de se faire valoir tout en dénigrant leurs adversaires. Il revient vite, en tout cas moi je vais revenir vite plutôt sur les Gémeaux. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, en conséquence tout le monde ou presque repartira avec un prix, écrit Cassivi. Mais personne n'était dupe de la mascarade, à vouloir contenter tout le monde on ne satisfait personne. On a eu beau remettre des prix saisonniers et annuel dans des catégories à ce point subdivisées qu'il n'y avait que deux finalistes admissibles, meilleure série dramatique quotidienne de 27 épisodes et plus, pour ne pas la nommer, la madame n'était pas toujours contente et ça fait rire Christiane Campagna. Et d'ailleurs, elle a déclaré quand même, mine de rien, j'aurais préféré une seule catégorie. C'est ce qu'elle a osé déclarer, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de M. Cassivi, Fabienne Larouche, en allant cueillir son prix quasi prédéterminé pour 30 vies. J'en connais plus d'un qui s'est étouffé dans sa coupe de mousseux et sa tartine de Paris pâté en entendant l'auteur, tellement il y a eu de contorsions, d'acrobaties et de circonvolutions autour des règles d'attribution des Gémeaux afin d'en arriver à un compromis qui puisse contenter durablement la productrice boycotteuse, c'est-à-dire enfin de s'assurer qu'elle reparte avec au moins un prix. Et puis, il revient aussi sur Martin Matt en disant « Heureusement qu'il y a des gens pour nommer un chat ou un éléphant, surtout lorsqu'il encombre la pièce d'un malaise dont personne n'ignore l'existence. » Martin Matt a eu le courage de dénoncer les conditions de tournage de moins en moins acceptables sur les plateaux de télévision en faisant référence au récent débrayage des équipes de Blue Moon et Rupture, série produite par Fabienne Larouche, ainsi qu'à la mort d'un cantinier de l'une de ses productions. Monsieur Matt, qui a une cote d'amour appréciable, un humour grinçant et une indépendance à la fois financière et d'esprit qui lui permettent de dire ainsi les choses, malgré un 30e anniversaire des Gémeaux que certains espéraient sans heurts. C'était non seulement de bonne guerre, mais c'était nécessaire. Prétendre que tout va bien, Madame la Marquise, relevait d'un manque de respect pour les artisans comme pour les téléspectateurs. Ça, je vais essayer d'aller vite, mais oh, dans quoi je me lance en seulement 1 minute 30? J'avais pas entendu parler de ça. L'humoriste Mike Ward est-il allé trop loin avec le petit Jérémy Gabriel? La famille de Jérémy Gabriel a déposé plainte à l'endroit de Mike Ward en 2012 à la suite du spectacle Mike Ward s'expose, dont la première a eu lieu en 2010. Jérémy Gabriel aurait été victime d'intimidation. La famille poursuit l'humoriste pour notamment certains propos tenus par le jeune homme durant son spectacle et aussi quelques capsules vidéo qui ont paru sur son site internet depuis 2008. Dans son spectacle solo, Mike Ward fait notamment allusion au handicap de Jérémy Gabriel qui est atteint du syndrome de Treacher-Collins, une anomalie génétique qui entraîne des difformités de la tête, du crâne et de visage. Il se moque aussi de ses prestations devant le pape. Il a dit, entre autres, le petit qui avait comme un subwoofer sur la tête, lui, t'allais à côté, tu pouvais entendre les commandes à l'auto du AEW. Peut-on entendre durant son spectacle aussi, au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, il parle toujours, Mike Ward, de ce petit gars, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour le pape et tout le monde a fait, ben il est ben poche, je le défendais, j'ai pas arrêté de le défendre, sauf que là, 5 ans plus tard, il est pas encore mort. Voilà, c'était entre autres le genre d'humour de M. Mike Ward. Alors, ils sont en cours hein, à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi il y avait ce papier pour nous rappeler les propos ben, franchement ignobles et ignominieux de Mike Ward à l'endroit de ce petit bonhomme qui avait été reçu par le pape. Voilà, Christiane Campagna, je vous laisse toute la place en studio pour nous présenter le bulletin du handicap. Je remercie Mathieu Tessier. Je vous remercie, vous, d'avoir choisi Canal M. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h.
Bonjour, je suis Gérald de Cousineau, auteur biographe au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Canal M, pour voir autrement.
Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagna et voici vos manchettes en ce mardi 22 septembre. Le 7 juillet dernier, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVICH, lançait à Québec sa trousse « L'accessibilité au service des commerçants ». Au même moment, à l'autre bout de la province, la ville de Gatineau était à peaufiner un projet pilote semblable. Dans plusieurs municipalités, on consacre temps et énergie à promouvoir l'accessibilité des petits commerces. Responsabiliser les commerçants est une excellente stratégie pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées dans une municipalité, affirme Mme Anne Hébert, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec. Des outils d'information comme une brochure sur l'accessibilité, des fiches techniques sur les normes d'accessibilité ou la trousse du CAPVICH peuvent être utiles à cet égard. Des stratégies de renforcement positif, comme le prix d'excellence qu'octroie la ville de Victoriaville, ou l'Association des personnes handicapées des îles, peuvent aussi contribuer à responsabiliser les commerçants. Votre municipalité ou organisme songe à promouvoir l'accessibilité des commerces de proximité? Pourquoi ne pas vous simplifier la tâche en profitant de l'expérience et des outils conçus par d'autres organisations? Parions que les précurseurs en ce domaine seront honorés de vous aider. Outre ces organisations, pensez à contacter les associations du Mouvement d'action communautaire autonome des personnes handicapées de votre localité. Celles-ci sauront certes vous offrir un éclairage pratique. Ces organismes, de même que les outils présentés précédemment, peuvent aussi appuyer les municipalités qui doivent ou qui désirent produire un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. En juin dernier, le ministre Jean-Marc Fournier a déposé le projet de loi 56, loi sur la transparence en matière de lobbyisme, qui prévoit assujettir tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme. Si adoptée, cette loi aurait des impacts considérables sur les groupes d'action communautaire autonomes, comme la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, et particulièrement sur les organismes de défense collective des droits. Elle aura également pour effet de faciliter la tâche aux lobbyistes du privé dans plusieurs domaines d'importance, dont ceux de l'éducation et de la santé et des services sociaux, mettant ainsi en péril la qualité et la gratuité des services publics. La COFAN fait partie du comité du travail du groupe d'organisations opposées à l'assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme, pilotée par la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Avec une cinquantaine d'organismes, la Confédération a participé le 25 août à une rencontre d'analyse collective du projet de loi 56 et a contribué à la réflexion en produisant des documents expliquant les enjeux de ce projet de loi. Le comité de travail travaille présentement à la production de documents supplémentaires afin d'informer les groupes de base et les citoyens et de leur fournir des outils pour manifester leur désaccord envers ce projet de loi. Il est également crucial de se préparer en vue de l'étude du projet de loi par la Commission des institutions cet automne. Le calendrier de la Commission n'est pas encore sorti, mais on peut s'attendre à ce que la consultation sur le projet de loi 56 ait lieu dès octobre ou novembre. La COFAN a envoyé une lettre aux membres de la Commission afin de demander que la consultation sur le PL 56 soit une consultation générale et non une consultation particulière, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent y participer. Dans son accusé de réception, le bureau du ministre Fournier a informé la Confédération que la consultation à venir serait une consultation particulière élargie. L'annonce officielle n'ayant toutefois pas encore été faite, il est toujours temps pour ceux qui ne l'ont pas fait d'envoyer une lettre demandant une consultation générale et signifiant leur intérêt à être entendus en commission. Pour recevoir les documents expliquant le contenu du PL 56 et en savoir plus sur les actions à prendre pour s'y opposer, veuillez communiquer avec Audrey-Anne Trudel, responsable du dossier, au 514-284-0155, poste 25, ou à l'adresse Audrey, audrey.trudel@cofan.org. Les enfants les plus hypothéqués de notre société n'échappent pas aux compressions en éducation. Deux enseignantes de l'école-hôpital Victor Doré sonnent l'alarme. Que le gouvernement arrête de dire que les coupes n'affectent pas les enfants, ce n'est pas vrai, répète d'une voix douce Nancy Bélanger-Pilon au Journal de Montréal. L'enseignante et sa collègue Marie-Pierre Connolly ont décidé de prendre la parole pour les enfants qui n'en ont pas. « J'adore mon emploi, je ne veux pas me plaindre, mais les enfants ont moins de services et eux ne peuvent s'exprimer. » Elles enseignent à l'école-hôpital Victor Doré de Montréal, fréquentée par 192 enfants souffrant d'un grave handicap moteur. La majorité d'entre eux, soit 59 % n'ont pas l'usage de la parole. Ces élèves qui apprennent très lentement sont incontinents, certains sont aveugles, d'autres sourds. Aucun n'est autonome. Ils doivent être nourris par un adulte et ne se déplacent jamais seuls. Dans nos classes, il faudrait 8 yeux et 16 mains, décrit Nancy Bélanger-Pilon. Le 9 septembre dernier, elle a vu un élève de sa classe tomber de sa chaise. La préposée qui m'accompagne donnait un soin d'hygiène à un autre élève. Si j'avais eu de l'aide, on aurait peut-être pu éviter ça. C'est devenu une question de sécurité, plaide-t-elle. Depuis 3 ans, le nombre de personnes ressources en soutien aux enseignants de l'école-hôpital est passé de 5 à 3. Le nombre d'élèves a pourtant augmenté, ce qui fait que toutes les classes atteignent le maximum de 8 enfants lourdement handicapés. Une classe est même en situation de dépassement, avec 9 élèves. Un seul élève de plus a un impact énorme sur nous physiquement, souligne Marie-Pierre Connolly. Dans une lettre récemment adressée aux médias, Nancy Bélanger-Pilon lançait un cri du cœur aux parents. « Je vous demande de vous lever, de vous manifester, de vous plaindre, de crier », écrivait-elle. S'attaquer à l'éducation, c'est répréhensible. S'attaquer à l'éducation des enfants lourdement handicapés, c'est minable. Vos enfants méritent mieux. Kay Glover foulera dès demain avec la troupe K-Public les planches du Royal Opera House à Londres. Si danser dans ce lieu mythique est un accomplissement pour la compagnie montréalaise, il l'est encore plus pour le danseur qui est atteint de surdité. Depuis 2 mois, à raison de 5 à 7 heures par jour, les 8 danseurs de K-Public répètent et peaufinent Symphonie dramatique, une version contemporaine de Roméo et Juliette qu'ils donneront 6 fois en représentation au Royal Opera House à Londres. « Je ne me suis jamais autant entraînée », confie Kay Glover à Metro quelques jours avant son départ. « Je sais que lorsqu'on sera sur scène, le stress sera présent. Mais pour le moment, c'est une bonne source de motivation », poursuit le danseur bilingue de 29 ans. Atteint de surdité à la suite d'une méningite contractée à l'âge de 8 ans, il découvre sa passion pour la danse à 10 ans lorsque sa sœur l'incite à participer à Casse-Noisette. « J'ai réalisé que sur scène, je pouvais influencer les gens à travers le mouvement », raconte le Montréalais originaire de Prince-George, en Colombie-Britannique. Si son handicap ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve, son parcours n'a pas été des plus simples dans un domaine où la compétition est féroce et où l'acharnement physique et mental est le lot quotidien des danseurs. « J'étais jeune, je ne savais pas comment gérer ma surdité, je n'en parlais pas et restais en retrait. » C'est lorsqu'il arrive à Montréal en 2012 qu'il aborde ouvertement sa surdité. Et c'est le début d'une nouvelle danse, une danse plus libre. Une sorte de liberté se dégage de sa danse, explique Hélène Blackburn, fondatrice, chorégraphe et directrice artistique de K-Public. Parce qu'il n'est pas dépendant de la musique, il a une grande sensibilité et il a appris à se fier à ses autres sens. Il a toutefois reçu de nouveaux implants dernièrement, mais malgré ses implants à la fine pointe de la technologie, il n'entend pas parfaitement. Il a su développer sa technique pour être en symbiose avec les autres danseurs. Alors voilà, c'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin, ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés, sont disponibles au vuesetvoix.com. Vous pouvez aussi nous envoyer vos nouvelles à canalm@vuesetvoix.com. Bonne journée tout le monde!